Bienvenue à Créateurs de croissance, un balado d'Investissement Québec. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Frédéric Dugre, président-directeur général à H2O Innovation, et Marc Fortin, directeur principal, investissement manufacturier et diversifié, discutent de la naissance de l'entreprise, de son passage de public à privé et des avenues de croissance qui s'en suivent. Découvrez comment la présence d'actionnaires alignés aux valeurs de l'entreprise peut favoriser une plus grande agilité et la prise de décisions stratégiques à long terme. Bonne écoute!
Bonjour à tous, je m'appelle Marc Fortin, je suis responsable des investissements dans le secteur manufacturier chez Investissement Québec. Très heureux aujourd'hui d'avoir la visite de Frédéric Dugré, qui est président-directeur général, cofondateur d'H2O Innovation. H2O Innovation, Frédéric va nous l'expliquer, c'est une société qui est active dans le secteur du traitement de l'eau et qui a fait l'automne dernier une transaction très importante dont on va avoir l'occasion de parler en détail. Alors Frédéric, bonjour, ça fait plaisir de te recevoir.
Hey, bonjour Marc, plaisir d'être ici.
Écoute, on peut peut-être commencer par une courte explication de l'historique d'H2O. Qu'est-ce que fait H2O? Quel service offre H2O à ses clients? Très intéressé d'avoir un peu d'historique avant qu'on parle de la transaction.
En fait, H2O Innovation est une compagnie de solutions de traitement d'eau. Donc, on offre à la fois des solutions pour des clients municipaux, pour des clients industriels. Notre champ d'activité est très large. Donc, on va faire à la fois des systèmes pour traiter l'eau potable, pour assainir l'eau usée, pour en faire le recyclage, pour faire du dessalement d'eau de mer. Donc, on va à la fois fournir la technologie qui va transformer cette eau-là, utilisant des technologies de filtration membranaire. Donc, on va construire les équipements, les machines, comme on pourrait dire. Puis après ça, on va avoir aussi toute une gamme de produits pour les entretenir. Donc, éviter l'entartrement des membranes, les nettoyer, avoir des produits qui sont complémentaires à l'opération de ces systèmes-là. Puis finalement, on va venir qu'à opérer ces systèmes-là. Donc, on opère aussi des infrastructures municipales et industrielles un peu partout en Amérique du Nord.
Et donc, tu as fondé cette compagnie-là, tu sortais tout juste de l'université, après ton bac en génie. Peux-tu nous parler un peu du contexte là, dans lequel tu as mis cette société-là au monde?
Bien, ça a été une super aventure. Ça a été l'aventure jusqu'à présent d'une vie parce que, comme tu l'as dit, je l'ai mis au monde presque à la sortie de l'université. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, en fin 99, début 2000, il y a eu un événement très malheureux en Ontario. Il y a 7 personnes qui sont décédées à la suite de contamination au coliforme fécaux au Canada. Donc, c'est un peu étrange quand tu entends la radio que des gens meurent après avoir consommé de l'eau potable. Donc, moi, c'est venu m'interpeller énormément. Puis, le propre d'un entrepreneur, bien, c'est de voir un problème, puis de s'y attarder, puis de sauter dessus, puis de transformer en opportunité. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire dès le début, c'est de venir en aide à ces petites, moyennes communautés-là avec une solution plus innovante, plus sécuritaire, avec une approche différente. Et j'ai donc lancé l'entreprise à ce moment-là. Le contexte était quand même intéressant parce qu'en 2000, cet événement-là a donné naissance, dans le fond, à une nouvelle politique nationale sur l'eau potable, à des investissements qui allaient être mis en infrastructure. Vraiment, ça convergeait vers la naissance puis le nouveau momentum, un peu, si on peut dire, dans le secteur municipal.
Comment on finance une société comme celle-là quand on la démarre? Ça a été quoi les défis que tu as rencontrés pour trouver le capital nécessaire pour lancer les activités?
Ouais, ça a été là, peut-être le plus difficile. On a lancé la société, dans le fond, un peu avec du capital amis, famille, parents, des proches. On a fait la recherche d'investisseurs à la fois sur Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, sans nécessairement trouver beaucoup d'intérêt pour le secteur de l'eau. Nos premiers investisseurs ont été européens, à la fois français, suisse, hollandais, anglais, qui, eux, avaient déjà un regard plus avancé que le nôtre sur le traitement d'eau, sur les besoins d'infrastructures. Donc, eux ont rapidement vu l'opportunité de notre plan d'affaires, puis c'est comme ça qu'on est venu au monde, si on peut dire. Mais nous, on est allé public pratiquement dès le début. Donc, on était une société par action, mais en bourse. Ça a amené des défis quand même de taille.
Oui, on va en reparler. Ouais. On va en reparler. Ce qui est intéressant, c'est que l'écosystème de financement dont tu parles depuis 25 ans s'est développé énormément. Aujourd'hui, Investissement Québec, on est présent à tous les stades de vie d'une entreprise, finalement. Fait qu'on a une équipe de capital de risque qui aurait pu peut-être aujourd'hui participer à la création puis au lancement d'une société comme la tienne. Évidemment, à ce moment-là, c'était pas le cas, manifestement, puisqu'il a fallu peut-être trouver là, des investisseurs un peu partout ailleurs sur la planète. Donc, nous, on est entrés en scène en 2013, de mémoire,
oui,
avec une première intervention. Parle-nous un petit peu là, de ces années-là, suite à l'arrivée là, d'Investissement Québec au capital.
Vous êtes arrivé justement, comme tu le mentionnais, via une acquisition qu'on vous a présentée. On avait fait quelques acquisitions auparavant aux États-Unis. Vous nous étiez présenté l'opportunité d'en faire une autre en Californie. Et c'est là qu'Investissement Québec est arrivé, concomitant avec d'autres investisseurs. Bien, pour nous, ça a été l'opportunité aussi de rajouter complètement une nouvelle ligne de produits à notre offre. C'est venu accélérer notre croissance dans des nouveaux marchés, un marché beaucoup plus international, qui était le marché du dessalement d'eau de mer. Donc, ça a été une belle transaction. Une transaction qui nous a permis très rapidement de doubler l'entreprise acquise. On a eu des bons défis lors de l'acquisition parce qu'il a fallu prendre cette petite entreprise-là qui était une entreprise vraiment familiale de très petite taille puis en faire une entreprise un petit peu plus de classe mondiale. Mais oui, c'est comme ça qu'on s'est croisés pour la première fois.
Et donc, si on accélère, on se retrouve là en 2023. Vous avez fait une transaction, comme je l'évoquais à l'automne, une transaction de privatisation. Donc, le mot le dit, est privatisé, donc n'est plus une société publique transigée en bourse. Peux-tu nous parler un petit peu du contexte de cette transaction-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'un matin, on décide qu'on privatise l'entreprise? Comment ça s'est passé dans votre cas?
Bien, ça a été une longue réflexion, parce que comme je l'ai dit, Marc, nous, on a été... moi, j'ai été toujours public. Donc, j'ai navigué dans un environnement de compagnie publique pratiquement dès la naissance de la compagnie. Autant, je reconnais aujourd'hui que ça nous a amené une très grande rigueur, une très grande discipline, une capacité aussi à communiquer, à faire rapport aussi à tes actionnaires, à tes partners, ainsi de suite. Autant, depuis un certain temps, je voyais une certaine lourdeur au fait d'être encore public à la taille où on était rendu, puis un certain inconfort de plus en plus par rapport à l'information qu'on devait donner non pas à nos actionnaires, plus qu'à nos compétiteurs aussi, parce qu'on est public. Donc, l'information, on la rend publique pour tout le monde, que ce soit nos actionnaires, nos compétiteurs, nos partenaires. Et de là, cet inconfort-là devenait peut-être un facteur limitant à croître davantage, à dévoiler notre stratégie au grand jour.
Est-ce que le fait d'être une société publique, d'une certaine façon, t'oblige pas à gérer un peu en fonction des attentes que le marché dicte, puis un peu de trimestre en trimestre, t'assurer que tu rencontres les estimés des analystes puis que tu ne déçois pas personne quand tu rapportes tes résultats?
Ça devient un jeu, entre guillemets, qui est quand même très difficile parce que dans la vie d'une entreprise, tu ne peux pas avoir une trajectoire linéaire parfaite. Donc, il y aura des moments ou des trimestres où tu vas vouloir investir davantage. Ça va augmenter tes coûts subitement, mais tu le fais avec la perspective d'être meilleur dans 2 ans, dans 3 ans, ainsi de suite. Donc, oui, comme tu dis, de gérer au trimestre par trimestre, ça devient ardu, ça devient difficile, ça devient contraignant quand tu veux le faire dans une perspective un petit peu plus long terme. Puis nous, notre secteur d'activité dans le traitement de l'eau, bien, c'est du long terme. On travaille sur des infrastructures, des projets qui sont développés sur des années. On ne peut pas penser nécessairement au prochain trimestre. Moi, je pense à la prochaine décennie.
Donc, c'est ça, justement, si on y revient à cette transaction-là de privatisation, c'est un fonds spécialisé en infrastructure américaine, une société qui est basée à New York, qui s'appelle Amber, qui vous avait approché déjà il y a un certain temps. Puis je pense que cette cour-là, elle durait depuis un petit moment, je pense. Hein?
Exact. Ben, on n'était pas pressés, là. On n'était pas mal d'être public. Mais oui, ils nous ont approché depuis un certain temps. On a commencé un petit peu à flirter. On voulait comprendre c'est qui ce partenaire-là, leurs intentions. Puis il y avait vraiment une vision puis une détermination. Puis je dirais surtout un partage d'une culture aussi qui nous ressemblait. Donc Amber, c'est quand même relativement un petit fonds. Dans le monde du private equity, dans le monde de l'investissement de risque, le fonds Amber est relativement petit comparativement à des très grands fonds américains de ce monde. On y trouvait une affinité. Une ressemblance aussi avec ce qu'on fait en termes de culture, en termes de taille, en termes de volonté entrepreneuriale aussi. Donc, la femme qui a lancé ce fonds-là, Elena est aussi une entrepreneure. Elle a lancé son fonds en plein milieu de la pandémie. Donc, a eu tous les défis, comme tu peux l'imaginer, de lever un fonds, de lever des capitaux avec cette vision-là de l'investir dans le monde de l'infrastructure, dans le monde de l'eau, dans le monde de l'environnement. Ça m'a beaucoup interpellé comme entrepreneur. Puis, ce partage-là, cet enlignement-là de vision, c'est peut-être comme là que j'ai dit, bon, explorons davantage ce qui peut être fait ensemble. Puis moi, bien, je voulais le faire avec un écosystème aussi québécois où j'allais m'entourer aussi des actionnaires qui m'avaient aidé, dont Investissement Québec, la Caisse de dépôt, ainsi de suite. Donc, pour garder cet écosystème-là qui était important pour moi, qui avait été des partenaires. Vous avez été un partenaire de Première Ligue, puis je voulais continuer avec vous aussi, puis... Ça menait un certain rapport de force aussi pour moi qui était important.
En fait, nous, on a vu chez Amber un peu la même chose que tu as vu. On a vu, évidemment, le fit, si je puis dire, qu'il y avait entre vos organisations, entre toi, ton équipe de direction, puis l'équipe d'Amber. On a vu aussi, pour nous, l'opportunité de s'assurer justement qu'il y ait un alignement avec Amber sur la place H2O au Québec, l'importance de garder cette société-là ici, l'équipe de direction ici, puis de faire de cette entreprise-là une plateforme de croissance qui soit basée au Québec avec l'équipe actuelle. Fait que pour nous, c'était formidable parce que justement, on libérait H2O des contraintes d'être une société publique puis de ce que ça apporte comme carcan. Puis on s'adjoignait un partenaire incroyable qui est spécialisé, qui connaît le secteur, mais qui veut en plus miser sur l'équipe actuelle. Fait que c'était comme la transaction parfaite. Puis c'est pour ça qu'on a vu l'opportunité même de, non seulement de continuer avec ce qu'on avait, mais d'en remettre davantage pour avoir une position importante. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce que ça apporte maintenant là, comme avenue de croissance, le fait d'avoir un partenaire comme Amber, puis d'être une société privée. Comment tu t'envisages les 5-10 prochaines années?
Bien, comme on disait, c'est que là, on pense plus pour le prochain trimestre, même pour la prochaine année. On pense vraiment sur un plan 3 ans, plan 5 ans. OK? Donc là, c'est mes équipes actuellement, là, depuis la transaction 8 décembre, moi-même, j'ai réécrit notre plan 5 ans, comment on approche le milliard. Donc, et là donc, on déploie, dans le fond, notre stratégie pour y parvenir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on sent beaucoup que ça libère notre croissance. Ça nous donne beaucoup plus d'agilité. On a une plus grande liberté de pouvoir poser des gestes plus stratégiques, d'investir dans certains secteurs de notre business, prendre le temps de bien faire les choses, agrandir, moderniser, gagner de l'efficience. Puis toutes ces choses-là ne se font pas sur un trimestre, justement. Tu peux pas investir dans un software, tu peux pas investir dans une nouvelle chaîne de production puis penser que le prochain trimestre, tu vas monter un rendement. Et cette impatience-là, des fois, du marché public, rendait ça impossible à faire. On libère là, notre croissance à vitesse grand V.
Fait que c'est quoi les principaux thèmes que tu vois dans les prochaines années émerger comme étant les principaux axes sur lesquels va s'appuyer votre croissance?
Bien, nous, il est clair dans notre industrie qu'on voit une immense accélération sur tout ce qui est recyclage d'eau, communément appelé en anglais le water reuse, là, donc de traiter l'eau usée, l'eau sanitaire, les eaux de toilette, là, et d'en faire une eau potable qu'on va réutiliser pour toutes sortes de fins, que ce soit l'irrigation, que ce soit l'agriculture, que ce soit des besoins industriels, que ce soit des besoins tout simplement en aqueduc. Ça, on voit une accélération incroyable se faire, à la fois en Amérique, mais de plus en plus aussi en Europe. Donc ça va être une thématique qui va rester encore pour plusieurs années, sur laquelle nous, on est très, très bien positionnés. On est la société qui a le plus grand nombre de références de projets réalisés aux États-Unis. Ça va de Orange County jusqu'à la ville de Los Angeles qu'on a gagnée il n'y a pas longtemps, San Diego, Escondido, le golf de Pebble Beach. Donc, les amateurs de golf, là, c'est le premier golf, la PGA, qui est irrigué par de l'eau recyclée. Fait que ça, c'est les secteurs clés, le secteur clé qu'on voit en forte croissance.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi au niveau corporatif là, les objectifs d'être water positive ou net water positive, ou j'oublie l'expression exacte, là, mais
l'équivalent du carboneur.
L'équivalent, c'est ça. Donc, ce qu'on utilise, de faire en sorte que ce qu'on n'utilise pas plus que ce qu'on retourne essentiellement dans le système.
Exact. Donc ça, c'est une nouvelle thématique là, qu'on voit là, apparaître de plus en plus. Les objectifs des Nations Unies, là, les Sustainable Goals, là, on ne peut pas les atteindre si on ne s'adresse pas d'abord aux problématiques d'eau. On ne peut pas enrayer la pauvreté si on ne règle pas les problèmes d'eau. On ne peut pas penser à l'électrification ou donner de l'énergie si on n'aurait pas réglé les problèmes d'eau. La famine, ça passe par des problèmes d'eau aussi. Il faut être capable de faire croître les légumes, les fruits, ainsi de suite. Pour nous, c'est un gros, gros, gros volet. Le water positive, je pense que les corporations aujourd'hui sont interpellées par ça. Ils se rendent bien compte que tu ne peux pas transformer, faire des voitures, faire des chips électroniques, faire de l'acier, construire quoi que ce soit si tu n'as pas d'eau. Il y a une approche beaucoup plus consciencieuse, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus intelligente où on dit, bien là, si on a besoin de cette eau-là, ben on va la recycler. Puis on va devenir aussi plus indépendant parce que là, les municipalités, de plus en plus, se disent, bien là, on va d'abord privilégier notre population avant de fournir une usine d'acier ou une usine de fabrication. Fait que les entreprises n'ont pas le choix de se donner une autonomie, de se donner puis de se doter de systèmes pour pouvoir traiter cette eau-là de façon beaucoup plus consciencieuse. Fait que ça, c'est des marchés pour nous qui sont super, super porteurs.
Ils ne peuvent pas nécessairement compter sur l'État-providence, là, donc ils doivent...
Non. Tu sais, une ville comme Los Angeles, là, pas Los Angeles, Atlanta, par exemple, en Géorgie, là, avait des hausses de taux dans la tarification de l'eau de 8 % par année de façon successive, là. Donc, c'est une entreprise industrielle qui s'approvisionne de la municipalité ou de la ville d'Atlanta, puis tu as une hausse de tarifs, c'est directement ton profit là, dans la transformation de ton bien qui est impacté. Là.
Dans tout cet exercice-là, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens, des conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui passeraient à travers une transaction un peu similaire où ils accueillent un partenaire comme ça important? C'est un point d'inflexion dans la stratégie de croissance de l'entreprise.
Bien, moi, je dirais que c'est intangible, mais je pense qu'il ne faut pas faire de compromis sur nos valeurs, notre culture d'entreprise. Puis c'est là que c'est important parce qu'on peut vite avoir l'appât du gain, puis voir les dollars, puis voir un partenaire stratégique, financier qui arrive avec beaucoup de dollars, puis des grands moyens, puis être impressionné de ça. Je pense qu'il faut garder la tête froide, puis il faut d'abord se dire, est-ce qu'il y a un alignement de valeurs? Est-ce qu'il y a un alignement de culture? Est-ce que mes employés, à l'intérieur de ce groupe-là, avec ce groupe-là, est-ce que mon groupe se sent bien? Est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que je vais avoir une érosion? Parce que en plus, c'est ça notre différenciateur. C'est notre culture. Là,
ah oui, c'est ça. Il faut que tu restes fidèle à ce qui a fait ton succès, finalement.
Exactement. Là, aujourd'hui, on a 1200 employés. On se bat tous les jours pour retenir puis attirer du talent. Mais je dis encore une fois, notre différenciateur par rapport à une autre compagnie dans le même secteur, c'est notre culture d'entreprise. Fait que mon conseil serait de ne pas faire de compromis par rapport à ça, de prendre le temps de bien regarder c'est qui ce nouveau partenaire-là. Peut-être comme moi, je l'ai fait, de s'entourer justement de gens plus gros, un peu, plus grands. On en a des belles institutions au Québec. Là, Investissement Québec, c'en est un là, qui nous accompagne puis nous accompagnait depuis un bout. Donc, de leur poser la question, puis ils vont pouvoir faire un travail puis amener justement ce regard-là peut-être différent que celui de l'entrepreneur seul. Là,
avant de terminer, Frédéric, est-ce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé?
Ben, en fait, tu vois, dans les 20-quelques dernières années, le fait d'avoir construit de rien une société dans le traitement d'eau, évidemment, ça a été très riche en expérience. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir faciliter ce passage-là pour des nouveaux entrepreneurs qui décident de se lancer dans notre secteur d'activité? Donc, actuellement, avec des partenaires, on doit partir un fonds d'amorçage pour des technologies reliées au secteur de l'eau, pour justement encourager notre industrie à faciliter l'émergence de nouvelles entreprises, de nouveaux agents d'innovation au Québec, au Canada, puis créer un écosystème encore plus fort. Reste à l'affût, là, on devrait avoir des choses intéressantes à annoncer prochainement.
Formidable nouvelle. Ben écoute, Frédéric, nous, ça fait 10 ans qu'on est partenaire avec vous. On est ravis de l'être. Évidemment, on espère être encore partenaire avec vous pour longtemps. C'est une aventure exceptionnelle que celle d'H2O. On est convaincus d'être avec le bon partenaire, d'être avec la bonne équipe. Écoute, merci encore d'être prêté au jeu. Ravi de t'avoir reçu cet après-midi. Puis bonne continuation.
Ben merci beaucoup. Très fier d'être ici.
Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié cet épisode de la série Créateurs de croissance, conçu et réalisé par Investissement Québec. Pour écouter tous les épisodes, visitez le investquebec.com/balado. À très bientôt!